Et on continue l'actualité à Alger, où un colloque international a mis en lumière un enjeu souvent négligé, la qualité du sol avant toute construction. Des experts en géotechnique alertent sur les risques d'ignorer cette étape essentielle et appellent à bâtir des infrastructures adaptées aux réalités locales pour garantir sécurité et durabilité. Les détails avec Ibtihel Adoun.
Monsieur Adem Belhassen, vous êtes directeur technique du Laboratoire National de l'Habitat et de la Construction. Bonjour.
Bonjour, madame. Bienvenue à ce séminaire aussi. Bienvenue parmi nous.
Cet événement parle des dangers géotechniques et la durabilité des constructions. Quels sont déjà les dangers que vous rencontrez aujourd'hui?
Nous avons une géologie plus ou moins complexe entre le nord et le sud, ce qui fait exposer notre territoire à des risques géotechniques. On cite les risques sismiques, les risques d'instabilité de terrain, les glissements de terrain, le risque lié au sol, par exemple le gonflement, les affaissements du sol, les sols compressibles, les sols gonflants, les sols gypseux qui sont susceptibles à la dissolution. Derrière tout ça, c'est anticiper les impacts de ces dangers-là afin de garantir des constructions pérennes et durables.
Comment avoir cette durabilité des infrastructures?
Il y a lieu de suivre la réglementation algérienne qui est sur aussi la réglementation internationale pour bien identifier le risque en phase de construction au préalable, donc afin de d'éviter ces impacts.
Selon vous, quelles sont les principales recommandations qui seront issues de cet événement?
Donc, concernant les recommandations, on peut parler principalement sur les renforcements des pratiques des études et de conception, c'est-à-dire rendre intégrer systématiquement dans les études géotechniques tout ce qui est analyse de risque, ce qui n'est pas prévu actuellement. Et on peut parler aussi de la favorisation des solutions de conception en intégrant la durabilité des matériaux par l'utilisation des matériaux locaux et innovants, donc adaptés aux conditions locales face aux agressions et aux aléas existants dans chaque région. On peut parler aussi en termes de conditions sur l'amélioration du cadre réglementaire et institutionnel. Donc on doit des fois actualiser, harmoniser, compléter les référentiels normatifs et réglementaires nationaux, ce qui est en train de se faire d'ailleurs, par exemple l'RPA qui a été révisé en 2024. Il y a d'autres guides pour aussi créer une base nationale de données géotechniques, donc regroupant tous les travaux géotechniques et risques, donc pour que ce soit accessible aux professionnels et experts. Donc il y a eu aussi de lancer les travaux, projet de cartographie des risques géotechniques et microzonage à l'échelle nationale, suivi, maintenance et l'innovation à travers l'instrumentation et le suivi des ouvrages sensibles tels que les talus, les remblais, les fondations profondes. Il y a eu aussi d'encourager l'utilisation des outils numériques et de méthodes innovantes de modélisation tout en restant attentif à leurs limites et conditions d'application. Et on parle aussi sans négliger le volet de la formation, la recherche et sensibilisation. D'ailleurs, parmi le but, on a vu la signature du protocole d'accord entre le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme, de l'Habilité et de l'Aménagement du territoire avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Donc, ce qui peut favoriser la collaboration entre les entreprises et les universités pour développer des programmes de formation continue pour les ingénieurs, les techniciens, les gestionnaires de projets pour le domaine de la construction.
Monsieur Adem Belhassen, je rappelle que vous êtes directeur technique du Laboratoire National de l'Habitat et de la Construction. Merci d'avoir répondu à nos questions.
Avec plaisir, madame. Je vous remercie.
C'était Ibtihel Adoun.
Our love is alive. Zoom sur le monde avec Liesther Reni.
Et l'actualité internationale, direction l'Iran avec le retour des sanctions européennes, analyse et décryptage avec Liesther Reni.
Monsieur Guimetan, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes spécialiste des questions internationales. Alors, les sanctions des Nations Unies contre l'Iran ont été rétablies après l'échec des négociations sur son programme nucléaire. On parle de lourdes sanctions allant d'un embargo sur les armes à des mesures économiques, une action qualifiée d'illégale et injustifiée selon Téhéran. Selon vous, qu'est-ce qui a motivé cette décision ?
Pour moi, la réponse est simple. Il faut toujours garder en tête que l'Occident est en train de mener une guerre sans concession pour maintenir son hégémonie sur le reste du monde. À partir de là, elle se bat sur deux fronts. D'une part, via l'Ukraine contre la Russie et d'autre part, via Israël contre l'Iran. À partir de là, il est logique que les pays occidentaux fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour reprendre le conflit contre l'Iran. Il s'agit de pousser l'Iran dans ses derniers retranchements tout en essayant de mettre les opinions publiques occidentales et si possible celles du reste du monde de son côté, c'est-à-dire du côté de l'Occident. Je crois que c'est seulement si on regarde l'ensemble de ce contexte qu'on peut comprendre cette situation.
Et quel sera l'impact direct de ces sanctions sur l'Iran et son économie ?
Je pense qu'évidemment elles vont aggraver la situation mais que ça ne va pas changer fondamentalement la donne. L'Iran reste un des pays les plus sanctionnés au monde, hein, avec la Russie, notamment la Corée du Nord et la Biélorussie. C'est un grand pays, donc avec une économie en difficulté, mais malgré tout forte. Donc je ne pense pas que ces nouvelles sanctions soient en mesure d'affaiblir ou de faire péricliter l'économie iranienne, même si ça va évidemment accroître ces difficultés.
Les pays occidentaux assurent que ces sanctions ne marquaient pas la fin de la diplomatie. Les États-Unis ont d'ailleurs proposé des pourparlers avec l'Iran. À quel scénario pouvons-nous nous attendre ?
Alors effectivement, ça peut paraître paradoxal. Les États-Unis, en même temps qu'ils proposent avec les Français et les Britanniques une nouvelle escalade de tensions, hein, avec ces sanctions, d'un autre côté, propose une reprise des pourparlers. Je crois qu'il faut comprendre ça de deux manières. D'une part, cette offre de reprise, eh bien, vise à diviser au fond l'opinion publique iranienne, éventuellement ses élites dirigeantes, hein, ceux qui sont favorables à des pourparlers et ceux qui sont point favorables. Ça, c'est, je dirais, le premier but de cette proposition, hein, essayer de diviser les Iraniens. Et puis le deuxième but, eh bien, c'est de préparer l'opinion publique mondiale et notamment les opinions publiques occidentales à une nouvelle guerre contre l'Iran. Parce que pour les Iraniens, c'est difficile d'accepter ce diktat, c'est difficile d'entrer en matière et sur ces sanctions, évidemment. L'Iran bien va probablement les refuser. Elle a d'ailleurs déjà reçu le soutien de la Russie et de la Chine qui ont dénoncé la prise de position du Conseil de sécurité qui a été prise à 3 voix de majorité contre 2 en disant que ce n'était pas légal de procéder ainsi et qu'au fond, cette décision de reprendre des sanctions contre l'Iran n'était pas valable.
Merci Monsieur Guimetan d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions internationales.
Zoom sur le monde avec Liesther Reni. It's fine.
et de l'actualité, de la bonne musique pour vous accompagner, chers auditeurs, où que vous soyez, jusqu'à 19h dans le magazine, avec dans quelques instants le point infotrafic pour nous partager l'état de la circulation à travers toutes les wilayas au 021 48 15 15.
L'inforoute.
Vous pouvez d'ores et déjà nous contacter et interagir avec nous pour savoir si vous êtes coincé ou pas dans les bouchons. Ça nous intéresse en tout cas dans le magazine.
Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me. Trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know?
Vous pouvez nous contacter pour partager avec nous l'état de la circulation. L'infotrafic, c'est jusqu'à 19h et à travers les réseaux sociaux Instagram et Facebook, Algéchin 3 et au 021 48 15 15.
So crazy lately, nothing seems to be going right. So low, why'd you have to get so low? You're so, you've been waiting in the sun too long. But if you sing,
Le premier auditeur au 021 48 15 15, Monsieur Aude, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Ça va?
Merci aussi. Oui, ça va, merci.
Vous êtes où exactement, Mseoud?
Bon, j'étais au boulot à Elbia.
D'accord.
Maintenant, je suis à Boufadik actuellement.
Ok, vous avez démarré à quelle heure de Elbia?
16h30.
Ah oui, quand même. Et là, vous êtes coincé à Boufadik.
Oui, exactement. Je suis à Boufadik. Bon, bientôt, j'arrive chez moi à 10 minutes, un quart d'heure.
Vous allez à Blida?
À
Bouinan, d'accord, très bien.
En fait, toujours, c'est Wilaya de Blida, bien sûr.
Oui, oui. Eh ben, bon courage, Mseoud.
Merci
de nous avoir informés.
Merci.
Bon retour chez vous. Et on vous écoute, chers auditeurs, au 021 48 15 15. Dites-nous comment ça circule. Un autre auditeur, Riyad, qui nous appelle de Baba Ali. Bonjour, Riyad. Riyad, je vais juste vous demander de diminuer le volume de votre radio pour qu'on puisse mieux vous entendre. Riyad, vous êtes là? Riyad. C'est pas grave. Le point info trafic continue. Il nous rappellera peut-être pour nous dire si ça circule au niveau de Baba Ali ou pas. En tout cas, n'hésitez pas, chers auditeurs et auditrices aussi, à nous contacter. Riyad est revenu.
Bonjour madame, vous allez bien?
Ça va et vous?
Alhamdulillah.
Alors comment ça circule au niveau de Baba Ali?
Des embouteillages noirs.
À l'ahsab, Aoudé, c'est que c'est bloqué, voilà.
Bizarre.
Vous allez où, Riyad?
Birtouta.
Birtouta, très bien. Vous revenez du travail?
Oui.
Eh ben, vous avez personne avec vous dans la voiture pour vous accompagner?
Oui, j'ai mes camarades.
Vos collègues, d'accord.
Mes collègues de travail.
On les salue, Riyad.
Merci, madame.
Et bon courage.
Merci, madame.
Au revoir, bon retour. Faites preuve de patience. Si vous êtes sur la route, on vous accompagne jusqu'à 19h dans le point info trafic au 021 48 15 15. Et là, on part direction Bdiaya. Bonsoir.
Bonsoir.
C'est Jamel.
C'est Jamel de Bdiaya.
Comment ça va?
Ça va très bien, très bien.
Alhamdoulilah. Vous êtes routier, Jamel?
Oui, je suis routier.
Vous partez d'où?
Je viens de démarrer de Raqqa vers Biskra.
Vers Biskra? Ah oui. Ah, mais c'est énorme. Oui, bon, vous êtes habitué, mais ça circule comment?
Ah, mal. Très mal ici à Dubahia.
Très très mal, c'est bloqué.
C'est bloqué.
À Dubahia, c'est au niveau de Bouira.
Au niveau de Bouira, oui.
D'accord. Et vous faites ça combien de fois par semaine, des trajets comme ça?
Non, c'est trop pour les destinations. 4 destinations.
Ah oui, quand même. Bon courage, hein, Jamel.
Merci.
Merci. Au revoir. Les auditrices, on aimerait bien vous entendre au 021 48 15 15 pour nous informer de l'état de la circulation. Soyez prudents sur la route, voilà. Si ça circule, si c'est fluide et si c'est bouchonné, prenez votre mal en patience. On vous accompagne en tout cas en musique. Et de Bdiaya, on va, Steph, retrouver Issam. Bonsoir.
Bonsoir, ça va?
Ça va et vous?
Ça va, alhamdoulilah.
Alhamdoulilah. Alors, ça circule comment du côté de Steph?
Au niveau city de Alma, la circulation est un peu.
Ah, l'Alma, d'accord. Ah oui, c'est bouchonné à cette heure-ci.
Merci.
Et pourtant, le marché, il s'arrête à une heure.
Oui,
Mais il y a quand même de l'encombrement. Aïssam, vous nous entendez? On l'a perdu, je crois, Aïssam, qui nous dit que c'est bouché au niveau de l'Alma. Et oui, on s'excuse pour la communication. Et on continue, en tout cas, vous avez encore 5 minutes pour nous appeler. Chers auditeurs, au 021 48 15 15. Là, on a une auditrice, je pense, avec nous. Fata, bonsoir. Je sais pas si elle nous entend ou pas. Oui. Elle est à Hedra. Bonsoir.
Oui, bonsoir Leïla.
Comment ça va?
Ça va, oui, tranquillement, normal.
Alhamdoulilah. Alors, au niveau de Hedra, ça circule comment?
Ben, je suis là. Première, deuxième.
Première, deuxième. Vous sortez du travail?
Oui, c'est pas mon itinéraire habituel. D'habitude, je passe par Bagali, mais aujourd'hui, j'ai quelque chose à Hedra. Je vais faire un petit crochet. Bah, j'ai fait 30 minutes pour y arriver, de Belkhadem à Hedra.
Bah, Ali, tout à l'heure, un auditeur nous a dit que c'était bouché, donc vous avez bien fait.
Ah oui, comme ça, je vais perdre un peu de temps à Hedra pour que je rentre vers ma destination finale.
Finale qui est où se trouve la
Zeralda.
Ah oui, bah bon courage.
Moi, j'appelle la matinale tous les matins pour donner le trafic.
Vous appelez Soraya.
Zantar et Hakim.
Exactement. Oui, on les salue.
Et maintenant, Et maintenant, quand vous avez dit que les femmes, vous êtes où?
Vous avez sauvé. Voilà, on a eu que des auditeurs depuis tout à l'heure et depuis le début de l'infotrafic dans le mag, y a pas beaucoup d'auditrices qui nous appellent. Ça nous fait plaisir en tout cas. Merci beaucoup pour vos informations bon retour chez vous, voilà. Et c'était la dernière auditrice, en tout cas, de l'infotrafic. On aura l'infotrafic demain, vous inquiétez pas pour celles qui n'ont pas pu nous contacter. Et la suite du magazine, la deuxième partie, avec d'autres reportages. Il y aura Reda Menassel pour TIC et il y aura Hanan Seissi qu'on retrouvera pour parler du festival du film méditerranéen qui se termine aujourd'hui. Voilà, tout ça, ce sera dans la deuxième partie du magazine en votre compagnie. C'est jusqu'à 19h. Il est 18h, vous retrouvez tout de suite le sommaire présenté par Walid Selman. Walid, bonsoir.
Bonsoir Leïla Djoubour, mesdames, messieurs, bonsoir. Et au sommaire de l'édition de 19h, retour sur les grands axes développés par le chef de la diplomatie lors du débat général à l'Assemblée des Nations Unies, soutien défectible aux causes palestiniennes et sahraouis conformément au droit international et des résolutions des Nations Unies et des propos sans embâge à l'égard des putschistes somaliens. Ils ont atteint les sommets de la bassesse, de la grossièreté. Ils ne méritent que répulsion et dégo des putschistes qui ont pris en otage tout un peuple. Nous écouterons dans le 19h Étienne Fakaba, Sissoko professeur universitaire, contraint à l'exil, qui rétablit les vérités. Jamais un pays n'a été aux côtés du Mali comme fut l'Algérie, affirme-t-il. Le bilan des putschistes, le chaos dans le pays. La rue marocaine en ébullition, manifestations, arrestations, contestations à travers tout le pays. Les politiques économiques et sociales nullement en phase avec les préoccupations et les aspirations des citoyens nourrissent cette contestation. En mort clinique, le Marzin tente de projeter vers l'extérieur ses déboires, tentative vaine reflétant son désespoir. Le Marzin qui a opté pour la normalisation avec l'entité sioniste, voilà ce qui nous amène à évoquer la question palestinienne avec le mouvement de résistance palestinien Hamas qui a entamé une série de consultations au sein de ses cadres politiques et militaires à la fois à l'intérieur de la Palestine et à l'étranger. Le but, examiner le plan Trump pour stopper le génocide à Gaza. Chez nous, économie, une nouvelle plateforme pour booster l'investissement lancée officiellement ce mardi, une initiative de l'agence algérienne de promotion de l'investissement et du conseil du renouveau économique algérien. Objectif, lever les obstacles et accompagner les opérateurs économiques. Un challenge pour financer les meilleurs prototypes de start-up est lancé aujourd'hui depuis Tizi Ouzou par le ministre de l'Enseignement supérieur. Transformer les idées innovantes des universités en prototypes commercialisables et à terme en start-up, c'est l'objectif visé. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 6 octobre prochain. Et si vous êtes intéressé par une carrière au sein de la protection civile, sachez qu'un concours pour le recrutement de 2000 agents de protection civile est déjà annoncé. Il y aura également de la culture avec ce clap de fin ce soir pour le Festival du cinéma méditerranéen à Annaba. Nous parlerons également du FIBDA et du sport avec les mondiaux de para-athlétisme. Pas de médaille pour l'Algérie lors de la quatrième journée. Le développement de tous ces titres dans moins d'une heure à 19h pile.
Bonsoir à tous. Sur les régions nord du pays, le ciel sera souvent voilé à localement nuageux. Des averses orageuses isolées sont attendues en soirée, plus particulièrement sur le centre-est et l'est, notamment des hauts plateaux et les Aurès. Les vents resteront variables sur l'intérieur, faibles à modérés, entre 15 et 30 km/h sur les régions côtières de l'ouest et du centre. Ils souffleront d'est à nord-est avec des vitesses pouvant atteindre 40 km/h. La mer sera agitée sur ces secteurs. Sur les régions sahariennes, le ciel sera partiellement voilé à localement nuageux, notamment du sud-ouest vers le Sahara central et le Nord-Sahara. Ailleurs, le temps restera globalement dégagé, des soulèvements de sable locaux sont possibles, principalement vers les oasis, le sud, et les oasis, le Sahara oriental. Les vents seront variables à modérés, oscillant entre 15 et 25 km/h, parfois jusqu'à 40 km/h vers le Sahara central et le nord. Les températures pour ce soir, il fera 13 degrés à Soukaras, 14 degrés à Steif, 15 à Mdia, 16 degrés à Guelma et Constantine, 19 degrés à Djidjel, 20 degrés à Oran et Alger, 25 degrés à Tamanrasset, 26 degrés à Timimoun, 28 degrés à Ain Ghazem et 22 degrés à Hassim Saout. Et bienvenue dans cette deuxième partie du magazine. Si vous venez de nous rejoindre, chers auditeurs, soyez les bienvenus. On passe tout de suite à l'actualité sportive. Et c'est avec vous, Hamza Rahmouni, bonsoir.
Leïla Djbourg, bonsoir.
On commence avec les mondiaux de para-athlétisme 2025. Pas de médaille pour l'Algérie lors de la quatrième journée.
Eh oui, avec les deux athlètes algériens qui étaient en finale, Abdelhadi Boudala et Mounia Ghesmi, se sont contentés respectivement de la cinquième place à l'épreuve du 1500 mètres T13 et de la dixième place au concours du lancer de club F32 ce mardi lors des finales. Abdelhadi Boudala a terminé cinquième en finale du 1500 mètres T13 avec un chrono de 4 minutes 52 centièmes. Pour sa part, la lanceuse Mounia Ghesmi n'a pas pu faire mieux qu'une dixième et dernière position au concours du lancer de club F32. L'Algérien aura par contre une seconde chance de briller lors de la finale du lancer de poids prévue ce jeudi. La cinquième journée des Mondiaux 2025, prévus demain mercredi, comprendra plusieurs finales, dont deux impliquant des athlètes algériens. La première finale avec du lancer de poids messieurs F32 verra la participation du trio Amchi Mohamed Najib, Ahmed Mhideb et Walid Farhah. Par contre, la seconde finale sera celle du 5000 mètres T13 avec la participation de Abdelhadi Boudala qui a déjà terminé à la cinquième position du 1500 mètres.
Et football avec la LFP qui dévoile le programme de la septième journée, Hamza.
Un programme de septième journée qui a été un peu modifié. Alors, on aura droit à deux rencontres ce vendredi 3 octobre. Paradouas et JS Kabylie, ce sera à partir de 15h30 au stade du 20 août 55 d'Alger. Et à partir de 18h, une affiche très intéressante, Mbelouizdad qui crée sensation en Ligue 1 face au Chebab Riyadi de Belouizdad. Ce sera à 18h au stade du 18 février à Ouargla. 6 matchs au programme le samedi 4 octobre à 15h, 2 rencontres au programme au stade Hammam Ammak de Khanchla, USM Khanchla, Mouloudia Doran, également MC Lbayad, ES Ben Aknoun au stade Zakaria Mejdoub de Lbayad. À 16h, ES Sétif, ASO Chlef au stade 8 mai 45. À 17h, JS Saoura Olympique Erbou au stade du 20 août 55 de Béchar. À 17h45, un alléchant CS Constantine USM Alger au stade Shahid Hamlaoui de Constantine. Et enfin, à 18h, au stade Ali Lapointe de Douira avec le Mouloudia d'Alger qui accueillera l'ES Mostaganem et le retour des supporters du Mouloudia d'Alger ce jour-là après avoir purgé la suspension en championnat mais également en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, il reste encore un match à purger. Ce sera face au FC Colombes du Cameroun en Ligue des Champions. Là, le football, c'est également l'épilogue de la sixième journée hier. Je rappelle brièvement les résultats. L'USM Alger a été tenu en échec par le Mouloudia d'Albayad, un but partout. L'US Mostaganem a battu l'US Sétif, un but à zéro. Dimanche, le CR Belouizdad et le CS Constantine ont fait match nul, deux buts partout. Également match nul entre l'Olympique Erbou et l'USM Khanchla, un but partout le samedi. Avec la victoire du Mouloudia Doran face au Paradouas, c'est 3 buts à 1. Match nul, 1 but partout entre l'ES Ben Aknoun et la JS Saoura. Même score pour la rencontre à ASO Chlef Mbelouizdad. Le classique du championnat JS Kabylie Mouloudia d'Alger a été reporté à une date ultérieure en raison de la participation de la JSK et du Mouloudia en Ligue des Champions africains au classement général de la Ligue 1. On retrouve la JS Saoura, le Mbelouizdad et l'Olympique Erbou en tête avec 11 points. Et dans le bas du tableau, on retrouve le MC Lbayad avant-dernier avec 3 points. Enfin, le Paradouacé avec un seul point.
Et on passe à la Coupe arabe des nations FIFA 2025 avec la vente des billets qui a été lancée.
Et oui, ce tournoi prévu au Qatar entre le 1er et le 18 décembre 2025. Les places sont désormais disponibles sur les plateformes digitales de la FIFA mais également du comité d'organisation local. Il y aura 16 sélections issues de la zone asiatique et africaine qui vont disputer cette phase finale de la Coupe arabe arabe des nations FIFA 2025, le Qatar en tant que pays hôte, mais également l'Algérie qui a remporté ce trophée lors de la précédente édition face à la Tunisie. Il reste encore 7 places à attribuer et ce sera au cours d'une série de matchs de qualification à élimination en direct qui vont se dérouler en novembre 2025 au Qatar. Je rappelle que la sélection algérienne a hérité du groupe D avec l'Irak ainsi que les vainqueurs des barrages entre Bahreïn et Djibouti pour la première rencontre, et la seconde rencontre opposera le Liban face au Soudan.
Et on passe au jeu de la solidarité islamique avec la composante de la sélection nationale d'athlétisme qui a été dévoilée, Hamza.
Elle sera composée de 11 athlètes algériens qui vont prendre part à ces Jeux de la solidarité islamique prévus entre le 7 et le 21 novembre prochain à Riyad en Arabie Saoudite. Il y aura Abdelmouk Benjamin dans la spécialité des 400 mètres, Gwened Mohamed Ali pour les 800 mètres, Haytham Chnitef pour les 1500 mètres, tout comme Anis Chout, Saraïch Omar pour les 3000 mètres steeple, Bouanani Amin les 110 mètres et Ben Hamoud Asmaïl les 5000 mètres marche, Souad Azzi également chez les dames les 5000 mètres marche, Amar Nguana le saut à la perche, Zahra Tatag le lancer du marteau et Boudoumi Daya Sharif au décathlon. 23 disciplines seront au programme dans ces Jeux de la solidarité islamique. Je rappelle que l'Algérie avait participé à la dernière édition des Jeux de la solidarité islamique avec 147 athlètes dans 12 spécialités.
Et on passe au judo et les mondiaux 2025 juniors, la sélection nationale à pied d'œuvre à Lima.
À Lima au Pérou pour prendre part à ces mondiaux prévus entre le 5 et le 7 octobre. La sélection nationale qui est composée de 6 athlètes, 5 garçons et une fille seront engagés dans les épreuves individuelles de ces mondiaux suivant leur catégorie de poids. Il s'agit de Oussama Abdelhaq Hazil dans la catégorie des moins de 66 kg, Ayoub Ben Laribi également dans la catégorie des moins de 66 kg, Abdeslam Belbelhout dans la catégorie des moins de 73 kg, Imad Mhibel dans la catégorie des moins de 81 kg et Atman Akbawi dans la catégorie des moins de 100 kg, tandis que chez les dames, on aura Lydia Keshout dans la catégorie des plus de 78 kg. Dans ces mondiaux, il y aura 486 judokas qui vont participer au tournoi, 254 chez les garçons et 232 chez les dames, représentant 68 pays des 6 continents.
Et on termine, Hamza Rahmouni, avec du football européen et on va parler de la Ligue des Champions.
Eh oui, la Ligue des Champions avec déjà deux matchs qui ont débuté à 17h45 et le Real de Madrid qui vient d'ailleurs d'ouvrir le score par le biais de Kylian Mbappé sur penalty. Le match se joue au Kazakhstan face au Kerat Almaty. On joue déjà à la 28e minute et les Madrilènes qui restent sur une lourde défaite en Liga face aux voisins, l'Atlético Madrid 5-2, mènent au score 1-0. En revanche, l'autre match entre l'Atalanta Bergame et le club de Bruges est sanctionné d'un nul jusqu'à présent après 30 minutes de jeu, 0 partout. Dans la soirée, on assistera donc notamment au déplacement de l'international algérien avec son équipe, l'Inter Francfort, Fares Chaibi à Madrid pour affronter l'Atlético de Madrid, Galatasaray Liverpool, Inter de Milan Slavia Prague, Marseille l'Olympique de Marseille face à l'Ajax d'Amsterdam, Paphos Football Club de Chypre qui accueillera le Bayern de Munich, et enfin un alléchant Chelsea-Benfica pour le retour de José Mourinho à Stamford Bridge. José Mourinho qui a pris en main la formation du Benfica. Il effectuera donc son retour à Stamford Bridge, lui qui a dirigé Chelsea à deux reprises. Je rappelle également que les Algériens seront concernés demain par la Champions League européenne avec Rami Ben Sebaini et le Borussia Dortmund qui accueilleront l'Atlético de Bilbao. Le Bayern de Leverkusen de Brahim Maza accueillera quant à lui le PSV Eindhoven. L'épilogue de la sixième journée de la première ligue anglaise hier avec le match nul 1-0 entre Everton et West Ham, Liverpool, le leader s'est incliné à Crystal Palace 2-1. Manchester City a battu Burnley 5-1. Et en Italie également, l'épilogue de la 5e journée hier avec la victoire de la Lazio de Rome 3-0 face à Genoa et Parme qui a battu Torino 2-1. L'AC Milan s'est imposé lors du choc de cette journée face au Napoli 2-1.
Merci Hamza Lahmouni, on vous retrouvera dans d'autres éditions pour d'autres actualités sportives et le MAG continue jusqu'à 19h. Et place à l'actualité culturelle dans cette deuxième partie du magazine avec Hanan Seissi qui revient sur la clôture du festival du film méditerranéen et elle s'intéresse aux jeunes réalisateurs et à l'image du cinéma algérien à l'international.
Mohamed Ali Nahdi. Vous êtes acteur, réalisateur tunisien. Vous prenez part à cette 5e édition du Festival de Annaba du film méditerranéen. D'abord, quelles sont vos impressions?
Je suis agréablement surpris. J'ai rencontré pas mal de gens que je connais déjà dans le festival. Mais une chose que j'ai appris du théâtre, parce que j'ai fait beaucoup de théâtre, autant comme metteur en scène et autant même qu'humoriste, quand je sors de mon pays, quand je participe, quand je pars pour soit présenter une pièce théâtrale ou participer dans un festival ou pitcher comme aujourd'hui, donc je me concentre sur ma tâche avant et après je peux explorer, rencontrer, visiter. Et par la même occasion, je voudrais remercier toute l'équipe du festival pour cette très belle initiative et cette invitation. Je viens de terminer le pitch de mon nouveau projet et là, je vais commencer à vivre réellement le festival.
Alors, pour expliquer aux auditeurs, vous dites, vous avez pitché votre projet, c'est-à-dire?
Alors, c'est-à-dire, je suis venu avec un nouveau projet de long métrage. Nous cherchons encore des financements et j'ai eu la chance que mon projet a été accepté ici. Donc, pour défendre le projet et avoir une possibilité d'avoir cette aide, on doit défendre, on doit parler du projet et défendre son idée et donner l'envie au jury d'aider notre projet. Donc c'est à nous, à part le film, à part le dossier, notre présence est très importante pour parler et pour convaincre les jurys à aider nos films.
Alors c'était comment aider avec les jurys?
Je connaissais déjà deux des membres que j'ai déjà rencontrés dans d'autres festivals. On se connaît, ils ont déjà vu. Alors un Tunisien et un Algérien, donc je connais déjà. C'était très bien, la vérité, j'avais un peu le trac, comme toujours. Donc on a présenté 20 minutes du film. Après, on a 10 minutes pour parler du film et pour défendre le projet. Et après la présentation, il y a du Q&A, donc il y a des questions-réponses. Donc les jurys, ils m'ont posé quelques questions, j'ai dû répondre pour éventuellement les convaincre à nous donner cette aide et pouvoir terminer le film dans des bonnes conditions techniques surtout.
Quel est le titre du film et quelle est son histoire?
Alors c'est un drame social, ça s'intitule 13e round, c'est l'histoire d'un couple qui se bat pour défendre leur fils unique de cette maladie maudite qui est le cancer. Le père est un ex-boxeur, commençait très bien la boxe il y a 12 rounds, donc j'ai rajouté un autre round à cette famille. C'est un film sur la métaphore de la boxe, combat de la vie, donc j'ai rajouté un round, le round de la vie, pour que ces gens-là puissent aider leur fils à se guérir.
Cette 5e édition est marquée par la présence ou l'omniprésence de la question humanitaire, la Palestine et Gaza. En tant que réalisateur, quelle position devrait prendre le cinéma justement sur ce genre de questions? Et est-ce qu'il peut être aujourd'hui un vecteur pour rappeler les consciences internationales?
Ça c'est sûr et certain. D'abord, ce qui se passe à Gaza nous touche tous et ça reste le sujet d'actualité par excellence. Le cinéma, c'est une forme de résistance aussi, donc il faut absolument, moi, personnellement, dans mes plans, je me suis juré de faire au moins un film sur la Palestine et sur ce qui se passe à Gaza. Pour moi, c'est comme un devoir. Et j'ai commencé même à écrire, et c'est ce qu'il faut. Il faut qu'on s'y mette tous ensemble à dévoiler d'une manière artistique, bien sûr, ce qui se passe. Il faut jamais oublier ce qu'ils ont fait comme génocide, comme massacre. Donc à chacun de nous aujourd'hui de parler de ça à sa manière artistique, culturelle, et je pense que ça touchera et ça aidera à dénoncer ce qui se passe réellement à Gaza. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment un devoir pour tout cinéaste, pour tout réalisateur arabe.
Alors un dernier mot sur le cinéma méditerranéen.
C'est chaud et ça devient, la vérité, ça devient de plus en plus difficile parce qu'avant, les années 80, les années 90, quand vous regardez bien, il n'y avait pas beaucoup de réalisateurs arabes, il n'y avait pas beaucoup de réalisateurs de films arabes. Aujourd'hui, on se retrouve, nous, notre génération, face à une concurrence très très grande. Par exemple, cette année, parce que j'ai essayé de toucher un peu aux grands festivals, j'ai déposé dans des grands festivals comme Cannes, comme Venise, comme Berlin, comme Toronto, comme Sundance. Heureusement que j'apprends la sélection officielle de mon film dans une compétition internationale dans un festival catégorie A qui est Tallinn Black Film Festival. Moi, je pense que l'avenir est prometteur, mais en même temps très difficile pour nous, pour les réalisateurs, pour s'imposer dans les plus grands festivals. La vérité, c'est très difficile.
C'est un challenge.
C'est un challenge, mais c'est un challenge bénéfique pour la qualité. C'est très bien. Moi, je suis pour la concurrence.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
نمدح ونقول يا على الله نمدح ونقول يا على الله نمدح ونقول على المهول والحش في الدور والشي لله
نمدح ونقول يا على الله نمدح
حاجة
Et j'espère que vous passez un agréable moment en notre compagnie. Le magazine continue, c'est jusqu'à 19h de l'actualité avec la rubrique TIC. À première vue, elles ressemblent à de simples lunettes de soleil façon Ray-Ban, mais derrière leur design discret se cache une véritable prouesse technologique, un écran invisible intégré au verre et un bracelet capable de capter nos gestes pour contrôler l'interface, gadget de luxe ou nouvelle ère numérique. On en parle avec Reda Menassel.
Depuis la fin septembre, une nouvelle paire de lunettes fait parler d'elles, ce sont les Ray-Ban Meta Display. Alors à l'œil nu, rien ne les distingue d'un modèle classique. Pourtant, elles inaugurent une génération d'objets connectés capables d'afficher directement des informations dans le champ visuel. L'utilisateur peut recevoir un message, suivre un itinéraire ou encore traduire en direct une conversation en langue étrangère, comme si l'écran du smartphone se greffait discrètement et directement sur le regard. Alors la grande nouveauté réside dans l'accessoire qui accompagne ces lunettes, c'est un bracelet appelé Neural Band, et derrière son apparente simplicité, il cache en fait un capteur capable de détecter les signaux électriques envoyés par nos muscles. Un simple mouvement du pouce, parfois invisible à l'œil extérieur, suffit à commander l'interface. Plus besoin d'appuyer sur un écran ou de dicter à voix haute, un geste discret devient une langue universelle pour dialoguer avec la machine. Alors pourquoi est-ce important pour nous? Parce que cela change tout simplement notre rapport à la technologie. Jusqu'ici, c'était toujours à nous d'apprendre ces codes. Taper sur un clavier, cliquer sur une souris, glisser sur un écran tactile, etc. Ici, la machine s'adapte à notre corps, elle suit en fait la logique naturelle du geste. Pour les spécialistes d'ergonomie, cela pourrait être un tournant comparable à l'arrivée de la souris dans les années 80 ou même de l'écran tactile dans les années 2000. Mais une telle promesse ne va pas sans inquiétude. Ces lunettes superposent des données numériques au monde réel. Demain, faudra-t-il supporter des publicités directement dans notre champ de vision? Accepter que chaque regard soit analysé, enregistré ou même monnayé? L'échec des Google Glass il y a 10 ans tenait moins à la technique qu'à la peur d'un espionnage permanent. À très vite.
I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Time when I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Bells ring, oh. Now he's gone, I don't know why. Until this day I sometimes cry. He didn't even say goodbye. He didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down.
Il est 18h36 minutes.
Vous écoutez Al Jazeera 3, l'appel à la prière d'El Maghreb.
أشهد أن محمدا رسول الله.
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
الحر يا مخيز الضر يا كن بينا قرار تحية الرجل المرى لا تمغر بما لك تنسى أخوانك قيس عملك تبرى
correspondant du jour.
Et direction Djeddah avec Abdelhamid Zouad pour parler de la citelle de Kabylie.
Avec un inventaire de plus de 160 espèces de faune, la wilaya de Djeddah est le terrain de prédilection d'une espèce d'oiseau endémique, en l'occurrence la citelle kabyle, peu ou prou connue du grand public. La citelle kabyle, Cita le denti, est une espèce d'oiseau de la famille des citadés. De taille moyenne, elle mesure environ 12 cm. Le mâle se distingue de la femelle par l'avant de sa calotte. C'est une espèce sédentaire qui se nourrit d'arthropodes en été, c'est-à-dire des insectes et de graines en hiver. La saison de reproduction a lieu vers mai-juin. Cet oiseau, qui est une espèce endémique d'Algérie, ne peuple que les forêts de conifères du nord du pays. Son nom scientifique rend hommage à Jean-Paul Ledent, un naturaliste belge et ornithologue qui a découvert l'oiseau en octobre 1975, il y a un demi-siècle. Elle a été découverte pour la première fois sur le mont Babor, à seulement une vingtaine de kilomètres de la côte méditerranéenne. Elle a été repérée ensuite dans la forêt de Guerrouche au sein du parc national de Taza en juin 1989, un massif forestier disposant d'une population plus importante comptant autour de 350 individus. Des effectifs plus réduits ont été par la suite découverts dans d'autres sites proches de ce parc. La citelle kabyle est considérée comme en danger depuis 1994. Les principales menaces qui pèsent sur ce volatile sont la destruction de son habitat, les incendies qui détruisent les anciennes forêts, le pâturage du bétail et la déforestation illégale. Il faut noter également que le nom de cet oiseau figure même dans le journal officiel américain Federal Register qui consigne les listes d'espèces d'oiseaux menacées. Djeddah, Abdelhamid Zouad, Alger Chaîne 3.
سيدي عبد الرحمن راجية فيكم
C'est déjà la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. On reviendra demain avec d'autres actualités économiques, culturelles et sportives. Merci à l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui. Merci à Clément à la console technique, Ikram à la régie d'antenne et Ali là aussi à la réalisation. Et quant à moi, je vous dis à demain, même heure, même station.
Thank you. Daniel.